carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lydia Arambourg, vous êtes historienne, critique d'art. Vous tenez régulièrement la chronique hebdomadaire dans la Gazette de Drouot. Vous êtes spécialiste de la peinture du 19e et du 20e siècle, en particulier de la Seconde École de Paris. Votre nom est attaché à de nombreuses publications, parmi lesquelles deux dictionnaires, l'un sur l'École de Paris, 1945-1965, et l'autre sur les peintres paysagistes français du 19e, qui sont devenus des références dans l'historiographie de l'art. Lydia Arambourg, vous avez écrit de nombreuses monographies, dont la liste ne cesse de s'allonger, sur les œuvres d'André Brasillier, d'Yves Breyer, de Bernard Buffet, d'Olivier Debray. Je ne peux pas tous les citer. Vous avez écrit aussi sur la peinture de Georges Mathieu, de Chu Chi-chun, et sur l'architecte Roger Taillibert. Et vous avez récemment créé la Biennale de sculpture de Hyères dans l'Essonne depuis 2007. Vous avez été élu correspondant à l'Académie des Beaux-Arts dans la section peinture en fin 2006. Lydia Arambourg, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous parler aujourd'hui d'un peintre, Georges Mathieu, dont l'œuvre vous tient particulièrement à cœur, sur lequel vous avez écrit une monographie chez Polychrome dans la collection Idégaland en 2006. Georges Mathieu est l'un des plus grands peintres de la seconde moitié du XXe siècle. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 1975. Pour le présenter très brièvement, il est né en 1921 à Boulogne-sur-Mer. Il a fait des études de lettres, de droit, d'anglais, de philosophie. Et dès 1942, il réalise des peintures à l'huile. En 1944, il crée ses premières peintures abstraites. Dès 1947, il se fait l'ardent défenseur de l'abstraction lyrique. Le succès est immédiat. Je n'en dis pas davantage pour avoir le plaisir de vous écouter, Lydia Arambourg, sur cette œuvre et sur la pensée de Georges Mathieu, dont on connaît surtout La Fureur d'être, qu'il a publié en 1994, et surtout, désormais seul en face de Dieu, en 1998. Avant de commencer notre entretien, Lydia Arambourg, puis-je vous demander si vous croisez souvent Georges Mathieu à l'Académie et quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ?
J'ai rencontré Georges Mathieu lorsque j'ai justement entrepris ma monographie sur lui. Nous avions eu auparavant des relations épistolaires, justement lorsque je faisais mes recherches pour mon dictionnaire des peintres de l'École de Paris. Et j'avais écrit à Mathieu qui m'avait répondu. Je pense qu'à l'époque, le personnage et la personnalité de Georges Mathieu m'impressionnaient et je ne savais pas s'il accepterait de me recevoir. Donc je n'ai pas fait cette démarche. Et en fait, c'est venu de lui parce que dans ses courriers, il me disait mais j'aimerais bien vous connaître tout de même. J'aimerais savoir qui a fait ce texte. Vous m'avez consacré le plus grand texte, le plus long texte de votre dictionnaire. C'est vrai qu'il y a presque 5 pages. Alors voilà, ça c'est fait. On s'est merveilleusement entendu. Cet homme est une personnalité très forte, éminemment cultivée, d'une culture dont on ne peut pas soupçonner l'étendue. Et donc ça a été vraiment un vrai bonheur intellectuel. Donc pour faire cette monographie, j'ai rencontré pratiquement 2 ans Mathieu très régulièrement à raison d'une matinée par semaine. J'allais travailler dans ses archives, il m'en confiait aussi certaines, et je revenais la semaine suivante ayant pris mes notes. Enfin. Et donc ça a duré 2 ans et puis le livre a paru à peu près au moment de la grande rétrospective au musée du Jeu de Paume. Et donc, ça a été un grand événement pour Mathieu. Ça l'a été, je dois dire modestement, pour moi aussi, parce que le catalogue n'étant pas prêt à temps, c'est vrai que c'est mon livre qui a fait office de catalogue pendant plusieurs mois, enfin tout du moins jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, il y a eu aussi une autre aventure picturale et muséale, c'est l'exposition de Mathieu à la Petite Écurie du Roi à Versailles, où là, les grandes peintures ont été exposées, redéployées, parce qu'elles avaient été montrées une première fois au Grand Palais en 1978. Et donc là, à nouveau, on a pu revoir ces très, très grandes toiles gigantesques, très impressionnantes, dans ce lieu qui était mythique, parce qu'il y avait évidemment un symbole très fort.
Peut-on croiser donc Georges Mathieu à l'Académie ?
Eh bien, je dis naturellement et spontanément, hélas, non, parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'il vienne. ça serait vraiment de grands moments parce que je pense qu'il a toujours énormément de choses à dire, mais c'est son choix que l'on n'a pas à discuter ni à essayer d'expliquer. Mathieu ne vient plus aux séances de l'Académie.
Alors Lydia Arambourg, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui caractérise la démarche de Mathieu ?
Alors en préambule, je voudrais quand même poser comme acquis que l'œuvre de Georges Mathieu s'impose avec l'évidence d'un langage. Et c'est un langage qui reste indissociable de sa pensée. En scellant la rupture définitive avec la beauté platonicienne, Mathieu a fait table rase de tout l'humanisme cartésien. Et sa réponse, il l'apporte justement avec l'abstraction lyrique, dont il est vraiment l'acteur et l'instigateur dès les premières années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale.
Lydia Arambourg, pour nous présenter un petit peu toute la singularité de la peinture de Mathieu, je voudrais qu'on commence par les caractéristiques de sa démarche. Qu'est-ce qui caractérise la démarche de Mathieu ?
La démarche de Mathieu, elle est liée essentiellement à cette révolution qui est l'inversion sémantique. C'est-à-dire que le signe précède le sens et l'image plastique précède l'idée. Il y a donc la primauté du geste sur la pensée et on a donc quasiment immédiatement, sans progression, sans étape préliminaire, on entre dans l'œuvre de Mathieu, qui s'impose comme un langage.
Un langage. Et ce langage, il était présent dès ses premières œuvres ?
Dès ses premières œuvres, alors bien sûr avec une évolution, mais ce qui est important, et alors si nous parlons de cette peinture qui s'appelle « Évanescence », il y en a eu quelques-unes qui l'ont précédée de 42, 43, 44, mais enfin, celle-ci est vraiment très emblématique. Ce qui surprend beaucoup quand on regarde ce tableau, c'est de voir l'autorité qui s'en dégage et notre conviction immédiate que nous sommes en face d'un art immédiatement maîtrisé. Il faut rappeler que Mathieu est un autodidacte. Il est entré vraiment en peinture sans avoir fait aucune école d'art. Il n'a jamais fait les beaux-arts. Il aimait dessiner, mais bon, comme beaucoup d'entre nous peuvent dessiner, il a fait quelques petites peintures. Il en a une qu'il garde, à laquelle il est très attaché, qui représente une vue de Londres et qu'il a peinte justement d'après une carte postale. Alors, un tableau éminemment académique, complètement, je dirais, figé, qui a aussi ce côté un peu naïf, donc qui ne peut à aucun moment laisser soupçonner dans quoi Mathieu va se lancer 2 ans ou 3 ans après. Quoique non, la peinture, il l'a faite, il était adolescent. Et il est en possession d'un métier infaillible, c'est ça qui est quand même très troublant. Et il peint ses premières toiles, qui sont donc complètement informelles, dans une totale solitude, puisque Mathieu donc a fait des études, comme vous l'avez évoqué, de lettres, d'anglais.
Il est professeur.
Alors il est professeur à Douai, il enseigne l'anglais. Ensuite, il va passer quelques mois à Biarritz, dans une université américaine où il va enseigner là cette fois-ci le français. Et donc, ce qui est étrange, c'est que immédiatement nous sommes confrontés à des formes cellulaires qui sont les formes qui seront celles de Volz. Alors Volz, Mathieu va le rencontrer quand il arrive à Paris, en 47, il est à Paris. Et il va très vite être dans ce milieu artistique et il va être auprès de ceux auprès desquels on doit se trouver. C'est-à-dire qu'il va se trouver auprès de Hartung, il va se trouver auprès d'Atlan, il va connaître Volz. Et alors Volz, c'est vraiment le peintre qu'il a toujours aimé et pour lequel il a toujours aujourd'hui une immense admiration. Il va le fréquenter et le voir quasiment tous les jours jusqu'au décès de Volz en 1951. Et donc, il va être très, très, très étonné et en même temps très troublé de voir que les formes qu'il a commencé à mettre sur la toile sont celles sur lesquelles travaille aussi Volz.
Ça va être une rencontre
alors forcément
déterminante.
C'est là, tout démarre là, dans ce Paris d'après-guerre, où il y a effectivement beaucoup de tensions, il y a une effervescence créatrice, mais quand on a du mal vraiment à imaginer ce qu'elle pouvait être, aussi bien dans la figuration que dans l'abstraction, mais en fait la polémique la plus ardente et la plus acharnée, elle est entre les abstraits qui vont bientôt s'appeler les abstraits lyriques et les abstraits froids, c'est-à-dire géométriques avec l'art construit. Donc tout ça forme des groupes, des familles, des galeries qui les concernent et qui les exposent, des critiques qui également s'attachent à certains artistes plutôt qu'à d'autres. Et tout ça donne un mouvement, une, comme vous pouvez imaginer, une effervescence qui est assez spectaculaire.
Donc dès le départ, il commence seul, il rencontre Wolfs. Dans tout ce milieu, il est très à l'aise immédiatement. Est-ce qu'il décide d'emblée d'avoir une démarche particulière de peintre à ce moment-là?
Oui, parce qu'alors, il y a aussi un élément qu'il faut aborder.
Parce que vous nous parliez de d'un langage propre à Mathieu.
Absolument.
Et surtout d'un rejet des acquis.
Alors, c'est vrai que ça va passer par le signe. Le signe qui, donc, est prioritaire dans son action. Pourquoi le signe? Parce qu'il rejette, bien sûr, la figuration, la représentation, qui pour lui est complètement caduque, ne peut absolument pas être le support à une quelconque émotion ou à même à la pensée. Et alors, il a lu un texte de Sir Robert Redd qui s'appelle « Icônes et idées ». Et alors, ce texte correspond exactement à ce qu'intuitivement il pressent, il ressent en lui et ce vers quoi il tend. Et il arrive à la conclusion que l'image est inutile, donc puisque l'image est inutile, ça va passer par le signe, et que c'est ce signe qui va être vraiment au cœur de toute sa démarche et surtout de toute son éthique et de toute sa pensée. Et il écrit un texte, il va très vite parce que chez Mathieu, on va suivre durant tout son parcours combien l'écriture accompagne la peinture. C'est indissociable chez cet homme qui est éminemment un penseur et un philosophe. D'ailleurs, ses grands amis, où sont-ils? Ils sont toujours dans des disciplines qui sont justement les mathématiques, la philosophie,
les sciences.
La spiritualité, les sciences, enfin, on est vraiment au cœur de cette pensée qui est là et qui doit accoucher de quelque chose qui doit faire le relais avec les sens et avec l'expression. Alors, Mathieu écrit des textes qui ne paraîtront qu'en 1951 et c'est une embryologie des signes. Donc là, on a vraiment tout le point de départ. Et pour Mathieu, en dehors de tous les courants esthétiques qu'il connaît, parce qu'il est tout de suite au courant de tout, il sait très bien, il a pris la température de la capitale, il sait très bien ce qui s'y passe, toutes les directions dans lesquelles l'art essaye de trouver et de faire aboutir d'autres recherches, aussi bien en figuration qu'en abstraction. Très vite, Mathieu a la conviction que ce qu'il va faire, c'est un art qui sera total, c'est une expression totale qui sera vraiment en osmose avec sa pensée.
Comment se situait-il par rapport à tous les acquis précédents de la peinture ? Il y avait une volonté de faire table rase ?
Ah oui, 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 bien sûr. Parce que, encore une fois, c'est lié à sa pensée. Il ne peut pas se contenter d'être uniquement dans une prolongation ou dans l'héritage de la peinture, qu'elle soit figurée ou qu'elle soit abstraite.
Il y a donc le rejet,
la table rase, tout. Et alors, surtout, la grande révolution, puisque c'en est une, qu'apporte Georges Mathieu, c'est qu'il scelle, il décide vraiment de rompre avec cette beauté platinusienne, qu'il rend responsable au fond d'un certain académisme et de l'enlisement de l'art et d'une sorte de sclérose. Vous voyez, même quand on est dans l'abstraction, il y a toujours quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse. Et ça, c'est aux antipodes de ce que recherche Mathieu, qui est au contraire dans cette immédiateté et dans l'urgence. Et donc, l'humanisme cartésien, il le balaye, mais immédiatement. Il y a même pas d'époque transitoire. C'est immédiat.
D'accord. Donc, il a voulu rompre avec les fondements de la Renaissance et
Absolument.
Il a opéré cette rupture dont vous nous parlez avec la beauté platénicienne.
Absolument.
Qu'est-ce qui fait la singularité de son œuvre, Lydia Rambourg?
Alors, je continue un petit peu sur l'histoire du signe parce que, bon, il a senti qu'il y avait des rapports possibles qui pouvaient lier la Gestell-théorie et la non-figuration libre. Alors, à partir de là, son prioritaire, le signe, le signifié et le signifiant. Et donc, on part de là. Le signe, donc, pour lui, est l'élément premier par lequel va passer toute la créativité. Et donc, il s'impose comme le créateur unique, absolu. Alors, c'est vrai que c'est une position éminemment personnelle et égocentrique, mais au-delà de ça, il y a quand même tout ce travail qu'il va faire et cette peinture qu'il impose très vite en tant que tout simplement créateur libre. Et effectivement, comme parallèlement, il y a aussi des recherches qui vont dans cette expression informelle qui prendra différentes appellations de tachisme, d'abstraction paysagère, etc. Eh bien, se positionne là vraiment comme un créateur unique et il va poser vraiment les fondements de ce qu'il a appelé la Renaissance. La Renaissance à tous les niveaux, et aussi bien en art que en philosophie, en littérature. C'est la pensée. C'est la pensée. Et donc, on est dans une approche qui permet d'appréhender l'univers en bousculant justement tous ces acquis sur lesquels reposait toute la civilisation occidentale depuis, on va dire...
Un peu comme Bergson en son temps, oui. Au début du siècle, oui. Cette même volonté de créer en faisant table rase.
Oui, oui. Donc je crois qu'en fait, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est donc ce signe qui traverse tout l'œuvre de Mathieu, mais qui est un signe aussi, parce qu'on parle aussi de signe chez bien d'autres peintres contemporains.
Donc un langage.
Mais c'est un langage.
Un langage.
C'est
un art langage. Pictural qui est un langage.
Le signe pour Mathieu, c'est la visualisation d'une pulsion. Il n'y a jamais d'équivalence et de relation immédiate. On n'est pas question pour lui d'en trouver une équivalence figurée ou figurale. C'est un signe qui est complètement libre et il a simplement une équivalence émotionnelle. Et donc, à partir de là, bien évidemment, ça va être toutes les fulgurances, toutes les déflagrations graphiques, colorées.
Comment le traduit-il si... Justement, quand
alors,
il se met à peindre.
La singularité de l'œuvre de Mathieu, je vais faire un raccourci, mais que je vais développer, mais c'est aussi un petit peu par provocation, mais aussi et d'une façon un petit peu aussi symbolique, mais en fait, c'est le saut dans le vide avec oui. Mathieu. C'est ce que personne n'a jamais fait, n'a jamais osé. Alors, bien sûr, ça prend des formes différentes et dans lesquelles on va, je pense, rentrer pour essayer d'analyser ça plus en profondeur. Le saut dans le vide, c'est-à-dire que ce signe, donc, qui est la conséquence de l'inversion sémantique accomplie, engendre immédiatement plusieurs éléments qui sont fondateurs chez Mathieu. C'est-à-dire qu'il y a l'improvisation, il y a la spontanéité et il y a la vitesse. Mais tout ça comme acte transcendantal. Donc tout ça est extrêmement vécu de l'intérieur et tout ça est requis et revendiqué au nom de l'imaginaire, du risque et de l'inconnu. Et ça, ce sont les éléments qui, pour Mathieu, fondent vraiment l'abstraction lyrique.
Alors dans ces gestes, il y a des peignés très très vite hein. Comme un danseur, comme un calligraphe.
Absolument. Oui, oui,
il y a vraiment presque une gestuelle.
Alors, il y a effectivement quelque chose d'assez à la fois de spectaculaire et qui a peut-être, je dis peut-être, parce que il y a eu tout de même cette volonté chez Mathieu, donc avec cet acte pictural qui passe par l'espace et par l'abolition du temps. Il y a donc l'affirmation d'un langage qui bouscule tous les acquis, donc encore une fois, pour réaffirmer la prééminence du geste, qui est irraisonné, qui est non prémédité, qui est hors de raison, on peut dire presque une sorte de folie. Et ça va l'amener, bien évidemment, à s'exposer lui-même, à se mettre en péril, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va très vite peindre en public, face au public.
C'était...
Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors peut-être qu'après, il y a eu des précédents, mais enfin, chez Mathieu, ça devient un rituel.
Un rituel.
Un rituel qui est indispensable, parce qu'il y a un côté, il y a une relation médiumnique avec le public, et c'est cette relation qui est tout à fait particulière, qui fait que le public renvoie à Mathieu quelque chose, une force, qui fait qu'elle déclenche en lui aussi ce geste. Donc on est dans quelque chose d'effectivement très très particulier.
Et cette peindre en public, ça correspond aussi à son engagement philosophique. Là, vous êtes en train
de... Oui, parce que c'est un acte fondateur pour Mathieu. C'est vraiment une façon d'être là, d'affirmer...
De s'exposer. C'est le saut dans le vide dont vous parliez
absolument.
Tout à l'heure.
Et ça l'enracine. Et cet acte qui est éminemment éphémère, mais qui en même temps éphémère, mais qui s'inscrit dans le temps, puisque c'est là toute la différence avec le happening, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs là-dessus, d'écrites et de dites. C'est que Mathieu s'en est... défendu, et alors moi bien sûr en ayant toutes ces explications et en sachant quand même en quoi consistaient les happenings quand il y en a eu avec les nouveaux réalistes et puis un petit peu après également par d'autres artistes, le happening est quelque chose d'éphémère qui forcément s'évanouit. Hein, c'est une chose qui est faite devant le public et ce sont des gestes, ce sont où il peut y avoir du son, de la musique, il y a des gestes, il y a de la danse, mais c'est éphémère, ça ne reste pas.
Avec la toile de Mathieu,
la toile est là. Et elle est définitivement inscrite dans l'histoire et dans le temps.
Des grands formats en plus.
Toujours des très très grands formats, mais ça aussi ça s'explique parce que c'est de cette relation aussi à l'espace. Donc Mathieu, systématiquement, prend des tableaux de plus en plus grands. Et on est confronté effectivement à des toiles gigantesques qui font 7 mètres, 8 mètres de long. Paris, capitale des arts, c'est la plus longue. Elle doit faire 8 mètres de long sur 3 mètres de hauteur. Alors effectivement, ce sont des océans de peinture dans lesquels on s'immerge complètement. Parce que Mathieu s'y est immergé, mais il appelle aussi son public à rentrer dans cette peinture. Et à refaire finalement cette expérience du vide, cette expérience de l'acte fondateur.
Lydia Rambourg, avez-vous vous-même été témoin d'un de ces moments de création ?
Hélas, non. Non, mais alors par contre...
Quelqu'un vous a raconté, une personne ? Vous auriez un témoignage ?
Non, mais il y a un film qui a été tourné magnifique. Par Frédéric Rossi en 1971, Georges Mathieu ou la fureur d'être. Et là, on voit effectivement Mathieu en train de peindre. Et c'est très, très impressionnant. Alors, on comprend que lorsque Mathieu est allé au Japon pour la première fois en 1957, il a absolument hypnotisé les Japonais. Parce que là aussi, bon, il y avait cette relation au geste, mais qui était complètement antagoniste par rapport au geste des extrêmes orientaux, qui est un geste extrêmement de l'intérieur, très retenu, puisque la calligraphie est à la fois un exercice de méditation, d'abord avant d'être un exercice ou un geste artistique. Donc, par rapport à ces artistes, à ces calligraphes qui ont hérité d'un geste ancestral et qui l'ont mûri, et mûri aussi par une méditation personnelle et intérieure, en se mettant face au paysage, c'est là toute la différence justement entre les abstraits lyriques occidentaux et les abstraits lyriques japonais ou chinois. Donc je pense à Shutetsun et Azawuki qui, eux, ont un geste, bien évidemment, qui est extrêmement intériorisé et très, très réfléchi, très mûri. Alors Mathieu, faisant vraiment une danse de chaman, ça tient à la fois il est dans l'arène, il le dit lui-même d'ailleurs, il est un torero. C'est une chorégraphie qui déjà se dessine dans l'espace avant de se retrouver sur la toile, projetée justement par ces jets de couleurs, puisque Mathieu va pratiquer le tubisme et le dry-ping dès 1945. Donc, il est au fait de toutes ces questions aussi techniques, c'est-à-dire qu'il se les invente lui-même parce qu'il sent très bien que ce sont les gestes qui correspondent vraiment à ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire passer dans la toile.
Il y a eu vraiment une cohésion immédiate dans son travail, dans sa démarche.
Le geste est existentiel. Là, vraiment, c'est un geste unique et c'est à la fois un geste de démiurge, un geste épique, un geste sacral.
Lydia Rambourg, marquons une courte pause si vous le voulez bien et retrouvons-nous dans quelques instants. Lydia Rambourg, comment Georges Mathieu voit le devoir de l'artiste, le rôle de l'artiste dans la société ?
Alors, nous reprenons toujours le cygne, parce que c'est lui qui est en fait au cœur de tout cet engagement, de sa prégnance et de son emprise sur la pensée. Et très vite, Georges Mathieu s'est imposé à lui qu'il fallait revaloriser les arts appliqués, qui effectivement, à partir des années 60, occupent une grande part de ses activités.
Parce que nos auditeurs connaissent probablement la pièce de Dufranc.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment la réussite absolue. Parce que, donc, en 1962, il y a une exposition qui est organisée par François Mattet au Musée des Arts Décoratifs qui s'appelle L'Objet. Et Georges Mattet avait demandé à des artistes de créer un objet. Et Mathieu a fait un lit. Et très vite, il a eu envie d'approfondir cette relation avec le quotidien, c'est-à-dire les objets qui nous entourent. Alors, il y avait un grand modèle, parce que ça fait partie aussi des grandes admirations de Georges Mathieu, qui lui ont été, bon, c'est un peu dommage, reprochées, mais comme tout a énormément de sens, quand on le sait, tout prend vraiment sa signification. Alors, c'est Louis XIV, mais c'est surtout Lebrun, premier peintre du roi, qui va créer les manufactures des Gobelins et qui vont être donc placées sous sa direction. Et de quoi s'agit-il avec ces manufactures? Eh bien, c'est pour promouvoir justement les arts appliqués. Donc, c'est aussi bien la tapisserie que tout ce qui concerne les médailles, le métal, le bronze. Et c'est vraiment l'alliance des arts et de l'industrie de façon à atténuer, si ce n'est rompre, avec les hiérarchies entre les arts majeurs et les arts mineurs. Donc là, curieusement, on revient à l'idée d'une renaissance quand même, bien que les acquis de la renaissance aient été complètement balayés. Mais là, c'est vrai que Mathieu est très très sensible et très touché. Alors, il y a une figure qui le fascine beaucoup, c'est celle de Benvenuto Cellini. Voilà. Alors là, effectivement, à la Renaissance, les artistes sont, comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange, sont à la fois architectes, ils sont peintres, ils donnent des cartons de tapisserie, ils donnent des dessins pour la médaille, ils font de la gravure. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment universels. Et ça, donc, on revient à l'idée d'un art total et d'une expression totale et absolue. Donc ça, Mathieu n'aura de cesse d'aller dans toutes les directions. Redonner aux arts appliqués leur place dans une société, et là aussi il y a un autre élément qui est très important chez Mathieu, une société qui a oublié le sens de la beauté. Donc pour Mathieu, on est dans une civilisation qui a perdu ce sens de la beauté. Donc comment retrouver la beauté, comment la faire partager au quotidien à ses semblables, à ses contemporains, si ce n'est par des choses auquel chacun peut avoir accès.
Alors, on a dans cet exemple de philosophie de la vie pour l'artiste, en fait, là, la médaille, la pièce de 10 francs, mais il y a aussi les symboles, le sigle d'Antenne 2.
Et c'est vrai que je pense que
dans les années 70,
Mathieu,
non, un peu après.
Le sigle, c'est 1975, voilà, le sigle d'Antenne 2. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que, bon, Mathieu est mondialement connu, internationalement reconnu et connu. Tout le monde, je pense, mais il y aurait une petite enquête à faire aussi là, parce que ça m'intrigue toujours, j'aimerais bien savoir qui connaît qui et quels sont les peintres aujourd'hui que le grand public connaît, quels sont les noms qu'on pourrait donner. Bon, mais Mathieu, pendant des années, était connu de tout le monde, parce que, et même parfois sans que les gens le sachent eux-mêmes, c'est qu'il y avait cette fameuse pièce de 10 francs que chacun avait.
Et on reconnaît d'ailleurs les signes de Mathieu.
Absolument. Donc en 1974, il y a cette pièce de 10 francs qui va être tiré à 660 millions d'exemplaires et qui va circuler journellement. Les gens vont vraiment l'avoir dans leur porte-monnaie, dans la main. C'est la monnaie, c'est ce qui permet d'acheter, de faire les échanges. C'est quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas s'il y a une œuvre d'art qui, c'est unique, une œuvre d'art qui
a été
qui
autant
eu autant de, je peux dire, de collectionneurs malgré eux, et en même temps avoir cette présence dans la vie de tous les jours. Ça, c'est absolument fascinant. Alors, je voudrais dire quelques mots quand même sur cette pièce, parce que cette pièce, elle a été demandée à l'instigation de Pierre Dehaye, qui était à ce moment-là directeur de la Monnaie. Et Pierre Dehaye était un très grand ami de Georges Mathieu. Ils partageaient beaucoup de choses. D'abord, ils étaient très proches sur le plan, justement, de la pensée. Et donc, Pierre Dehaye étant à la tête de cette grande maison qu'est la Monnaie de Paris, par son intermédiaire, va amener mais assez naturellement, je pense, Georges Mathieu à l'art numismatique. Et donc, en 1970, il va y avoir une première commande qui est celle de 18 médailles qui vont célébrer les événements majeurs pour l'évolution de la pensée occidentale de 313 à 1947. Donc là aussi, avec Mathieu, on est toujours dans les mythes, on est toujours dans l'histoire, dans l'héritage de cette civilisation.
Dans l'épaisseur de la civilisation.
Donc, première commande, 18 médailles. Et en 1974, donc Pierre Dehaye là, commande la pièce de 10 francs. Et elle sera retirée, cette pièce de 10 francs, en 1991. Voilà. Alors, je dis encore une petite chose, c'est que Mathieu, passionné par la numismatique, il est allé dans les ateliers, il a fait lui-même ses...
Moulages ? Non, je ne sais pas comment dire. Il a gravé au burin.
Et il est donc maintenant dans cette relation au relief, dans cette relation au volume. Bien que le volume, là, soit dans mes plats. Mais enfin, mais tout ça l'amène à faire de la sculpture très vite. Donc, il y a ce fameux sigle, effectivement, d'Antenne 2. Et puis, il y a des essais de sculpture qui n'aboutiront pas pour des raisons administratives, mais il travaille aussi la sculpture. Il réalise l'épée de Pierre Dehaye, l'épée d'académicien. Très important, ça aussi, parce que là, il n'y avait pas seulement l'amitié, mais il y avait ce désir de se confronter, d'affronter... un thème, puisque c'est éminemment symbolique à chaque fois. Il faut essayer de mettre dans cette épée d'académicien ce qui peut évoquer la pensée et les activités de l'académicien.
C'est un art auquel que pratique Jean Cardo, puisqu'il a signé plusieurs épées de ses confrères qui sont magnifiques.
Et alors, ça, ce sont surtout les sculpteurs, c'est vrai, qui aiment bien faire les épées de leurs confrères, et où ils font leur épée, enfin, pour Gérard Lanvin, c'est Claude Marie, qui est un magnifique sculpteur. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a cette relation entre eux.
Donc, Georges Mathieu s'est essayé à la sculpture, vous nous disiez.
Pour parler de cette descente dans la rue de l'art de Mathieu, on va dire, pour faire très court. Oui. Donc, il y a la pièce de 10 francs, mais il y a aussi les fameuses affiches d'Air France.
Bien sûr.
Alors ça aussi, les affiches vont être vues partout. Et même encore maintenant, moi, il m'arrive, je vais dans un restaurant, je ne sais plus, il y a un restaurant, sans faire de publicité, qui est dans le premier arrondissement, qui a toujours des affiches de Mathieu dans une arrière-salle. Alors je me dis, tiens, elles sont pâlies, elles ont jauni, mais elles sont là encadrées. Et je me dis, bon, ben Georges Mathieu est là. Donc les affiches d'Air France, c'est 1967. Elles sont exposées au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et elles vont sillonner à travers le monde. Elles vont participer à 300 expositions, ce qui est énorme, énorme. C'est pour ça que je dis que vraiment, Mathieu a été présent et omniprésent à travers le monde.
Et il est très présent dans les collections étrangères.
Oui, oui, oui.
Ça, peut-être davantage que dans les collections françaises.
Oui, ça, c'est le grand regret. Et je dois dire que c'est pour Mathieu une très grande déception de voir que ces Capétiens partout, qui ont été donc donnés par Jean Larcade, qui en était le propriétaire, au Musée national d'art moderne, donc depuis transposé au Centre Pompidou, ce tableau n'est pas exposé dans les accrochages permanents. Et ce tableau a été vu donc à Versailles au moment de cette exposition en 2007.
Lydia Arambourg, comment l'expérience esthétique de Georges Mathieu rejoint-elle une expérience du sacré, pour ne pas dire l'expérience du sacré ?
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le rôle médiumnique du public qui provoque effectivement, qui appelle en tous les cas les énergies tapies au sein de l'artiste, donc ces flux endigués qui prennent corps finalement de ces signes et d'une déflagration violente sur la toile. Donc l'happening, ça j'en ai parlé. Donc il y a cette relation toujours entre le signe et le geste. C'est vrai qu'on a plusieurs auteurs et écrivains ont parlé, parce que Mathieu, tout simplement, se compare à un chaman. Et y a un côté, effectivement, danse sacrale, il y a un côté transe. Mais il ne faudrait pas, quand on dit ça, il faut être toujours très prudent, parce que les mots sont dangereux et trahissent souvent ce qu'on ne voudrait pas dire et ne disent pas ce qu'on aimerait qu'ils disent. C'est que, en fait, c'est cette confrontation au vide et ce vide primitif qui le rapproche justement des grands mystiques, c'est-à-dire faire ce vide total en soi. Et donc, c'est ce qui se produit quand Mathieu se met face au public devant sa toile vierge. Alors généralement, la toile effectivement est posée au sol et physiquement, Mathieu s'en empare puisqu'il est dessus. Et effectivement, le fait de faire ce geste qui est toujours inattendu,
il fait le vide en lui.
Il fait le vide en lui, bien sûr. Alors, ça lui fait faire une sorte de chorégraphie, encore une fois, dans l'espace. Alors, il y a des personnalités, là aussi, des grands saints qui comptent parmi les figures emblématiques, on va dire, du panthéon de Georges Mathieu, c'est Thérèse d'Avila et puis, bien sûr, Saint Jean de la Croix. Et Saint Jean de la Croix avec ses écrits. Enfin, ces deux grandes figures de la spiritualité et de la mystique sont deux grands écrivains auxquels se réfère Georges Mathieu, bien sûr.
Qui l'ont inspiré.
Et donc, il y a ce souffle mystique et son rapprochement avec, donc, justement, ces grands mystiques, c'est que pour Mathieu, ça passe par la peinture et la peinture est un moyen de connaissance. Donc c'est une façon de mieux approfondir son être et ça passe donc par ça.
Et puisqu'il est réuni, c'est aussi l'absence du corps, enfin cette volonté de minimiser,
oublier
son corps.
Donc ça passe par le souffle, par l'énergie. Et au bout de ce souffle et de cette énergie, ce sont les déflagrations. Donc c'est le signe qui effectivement arrive.
Et toute la tension qu'on retrouve dans la peinture de Mathieu. Y aurait-il une œuvre, Lydia Arambourg, qu'on pourrait citer à nos auditeurs pour, à propos de cet élan mystique, cette expérience du sacré chère à Georges Mathieu ?
En fait, tous ces grands tableaux, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'ère des batailles, depuis les grandes batailles, donc la bataille de Bouvines, qui a été filmée, enfin, sa réalisation a été filmée par Robert Descharnes. Donc c'est un film qui précède celui de Frédéric Rossif. Alors la bataille de Bouvines, là aussi, la symbolique, la bataille de Bouvines a eu lieu un 25 avril et Mathieu choisit le 25 avril 1954 pour peindre cette bataille de Bouvines. Et donc il la peint dans un studio de cinéma et un studio abandonné, désaffecté, et Robert Descharnes filme cette réalisation. Et puis donc, à partir de ces années 54, il y a effectivement les Capétiens partout. Alors ça, c'est tout de suite après, qui devrait être visible à Beaubourg. Mais il y a toute cette ère, ce qu'on appelait l'ère des batailles, avec la bataille de Hastings, la bataille des Éperons d'or, la bataille de Brinkeberg, le massacre de la Saint-Barthélemy. Sans aucune relation, encore une fois, avec un événement historique précis, parce que ce n'est pas ce qui est recherché, c'est la violence, c'est l'affirmation d'un fait dans l'histoire qui s'inscrit à travers le signe.
Comment situez-vous Georges Mathieu par rapport à Hartung, Pollock, par rapport aux autres peintres de l'abstraction lyrique ? Vous en avez un petit peu parlé au début de l'entretien.
Oui.
Et justement, comment est-ce qu'on peut le situer ? Et puis, comment lui-même s'est-il affirmé dans les galeries de l'après-guerre à Paris ? Vous en avez aussi un petit peu parlé. Mais quels étaient ses rapports à Hartung, Pollock et Wolfs ?
Alors justement, quand Mathieu arrive à Paris en 1947, je vous ai dit qu'il était là où il fallait être tout de suite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est inexplicable. C'est sa force, parce qu'il est là, il rencontre ses artistes, il les fréquente, mais c'est surtout qu'il va avoir très vite une sorte d'autorité sur eux, dans la mesure où il va s'improviser organisateur d'exposition. Et donc, il ne cherche pas d'abord à présenter ses œuvres personnellement, puisque ça sera beaucoup plus tard, en 51, chez Drouin, quand il va donc avoir cette exposition qui s'appelle Hiroshima, mon amour. Mais il décide, justement, dans cette perspective de bien imposer, de bien asseoir les bases de l'abstraction lyrique, il pense que ça passe par des expositions de groupe. Et alors, il connaît Hartung, il connaît Wolfs et puis il connaît bien d'autres artistes aussi. Donc il connaît Atlan, il participe d'ailleurs à ces samedis d'Atlan. Atlan, comme beaucoup d'artistes, avait son jour. Alors en fait, c'était des réunions d'artistes et rue Campagne Première, dans l'atelier d'Atlan, se retrouvent vraiment...
À Paris, dans le 14e.
Voilà, se retrouvent des peintres, mais aussi des écrivains, des critiques, des collectionneurs. Et Mathieu est là, bien évidemment, comme il est avec Pierre Loeb, autour de Riopelle, de Viera da Silva. Et donc, c'est un climat tellement exceptionnel fusionnel. Alors, Mathieu connaît Hartung. Hartung, c'est l'aîné de Mathieu, et beaucoup plus âgé, il est d'une génération antérieure. Et il faut savoir que malgré l'âge d'Hartung, qui a dépassé 50 ans, il n'a jamais eu d'exposition personnelle en France. Et c'est Lydia Conti, qui a ouvert une galerie en 1947, qui va, la même année, exposer trois peintres, qui sont quand même trois peintres de l'abstraction lyrique, donc deux grands aînés qui sont Hartung et Schneider, et le troisième, mais qu'il faut appeler abstrait lyrique avec beaucoup de précaution, c'est Soulages. Et parce que Soulages est dans une peinture quand même qui est beaucoup plus, une peinture qui est très réfléchie là aussi. C'est une peinture dans le temps, qui prend du temps, elle n'est pas dans le geste, la peinture. Ou tout du moins, le geste est décalé. Ce n'est pas le même geste que chez Wolfs, que chez Hartung, que chez Schneider et surtout que chez Mathieu. Alors, tous en commun, c'est vrai, ont ce geste, mais qui prend une dimension différente. Donc, Mathieu va commencer à organiser des expositions. Et il y a un élément aussi très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mathieu est celui qui va, le premier en France, révéler au public français donc des artistes américains, comme Pollock, Gorky, De Koninck, Tobet, qui n'étaient pas connus et qui n'exposaient pas à Paris. Et par ces expositions de groupe, ces artistes vont être amenés à exposer aux côtés de peintres français. Donc, j'ai déjà cité Wolfs et Hartung, mais il y a aussi Brienne, qui est aussi un grand peintre abstrait, qui lui a aussi son chemin, son langage. Et donc, cette première exposition, elle va confronter des artistes français et des artistes américains dans une galerie qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle la Galerie du Montparnasse, rue Gay-Lussac, et qui est dirigée par une femme qui s'appelle Gilberte Solacaro.
Ah, les femmes étaient très à la pointe, là.
Les femmes sont présentes, et ça c'est aussi inexplicable, mais c'est comme ça. Les galeries pionnières, juste après la guerre, il y en a 5-6 qui sont ouvertes par des femmes. Donc, il y a Lydia Conti, dont j'ai déjà parlé, qui était rue d'Argenson, et qui fait donc ces trois expositions, et qui après va continuer à présenter des artistes abstraits. Il y a, à la Galerie du Luxembourg, Eva Philippe, qui va accueillir Mathieu, qui montre une exposition, là encore, de groupe, sur le thème de l'imaginaire. Alors, il invite Hartung, Atlan, Wolfs, Brienne et un sculpteur qui est Harpe.
Oh là là.
Harpe aussi qui est dans cette abstraction métaphorique et cellulaire, parce que bien évidemment toutes ces formes organiques chez Harpe sont au départ la cellule primitive, et dont le point de départ pour la sculpture ça remonte à Brancusi. Alors, une autre de ces galeries est tenue par Colette Alindy. Alors là, on est dans le 16e arrondissement, on est dans un tout autre quartier. C'est l'épouse d'un célèbre médecin. Et Colette Alindy, alors là, c'est vraiment la galerie qui s'ouvre à ces nouvelles tendances et qui s'ouvre beaucoup à la jeunesse aussi. C'est la galerie de Picabia, c'est là où Picabia a fait sa dernière exposition dans les années 50. Mais c'est là où Georges Mathieu va faire une exposition qui porte les initiales des peintres qu'il invite, c'est-à-dire HWPSMTB, Hartung, Wolfs, Picabia, Staly, Mathieu, Tapier, Brienne. Staly, je le souligne, c'est le sculpteur qui est également académicien. Et alors, bon, tous sont effectivement dans cet art informel, dans des formes libres, complètement éclatées. Une autre dame encore, Florence Banque, qui ouvre la Galerie des Deux Îles. Et en 1948, toujours, Georges Mathieu décide de faire une exposition uniquement noir et blanc. C'est-à-dire, ce sont des œuvres en noir et en blanc. Il faut penser qu'il y avait aussi là le souvenir.
C'est lui qui organise, qui fait les...
Alors, il participe lui-même aussi, voilà, pour certaines, à ces expositions. Mais il est vraiment orchestrateur de quelque chose qui est tout à fait unique, parce que c'est là où sont vraiment les fondements de l'abstraction lyrique. C'est là où elle va se fédérer. Et c'est là où vraiment Mathieu s'impose comme celui qui est, c'est pour ça, acteur et instigateur de cette abstraction lyrique. Il en est vraiment le responsable, on va dire. Alors, white and black, noir et blanc, ça c'était un souvenir aussi dans cette perspective de la guerre qui avait été, bien sûr, très douloureuse, qui avait laissé des marques, et notamment chez Picasso avec Guernica en 1937. Bon, très bien. Et donc, Mathieu a envie de faire une exposition uniquement sur le noir et le blanc. Et je voudrais dire aussi quelque chose, c'est qu'à la même époque, Olivier Debré...
Oui.
Peint ses 6 personnages, commence à les mettre en route, si je puis dire. Ouais. Il invente lui aussi son signe, mais c'est une autre histoire du signe. C'est le signe personnage. Et Là aussi, on est dans une palette extrêmement sombre et généralement une palette monochrome du noir et du blanc. Donc ça, c'est très spécifique aussi à cette période. Encore une femme, Nina Dosset, qui va présenter une exposition de groupe, toujours organisée par Mathieu, et qui s'appelle « Véhémence confrontée 1951 ». Alors là, c'est la dernière exposition de groupe organisée par Mathieu. Et là, on retrouve Hartung, Pollock, Vols, De Koning, Brienne et Riopelle, dont il a fait la connaissance chez Pierre Loeb. Et je vous ai parlé de son exposition chez Drouin, sa première exposition personnelle. Mathieu, c'est en 50-51, fin 50, début 51, où là, il fait une exposition personnelle. Hiroshima, place Vendôme, parce que la galerie de Drouin était à ce moment-là place Vendôme, et il y a Jean Cayens qui écrit un poème, et à cette exposition, tout le monde est là, tout Paris est là. Donc Mathieu est très jeune, il est immédiatement intronisé, si je puis dire, officiellement, en tant que peintre qui fait sa première exposition, qui impressionne Henri Michaud, qui restera très proche de Mathieu. C'était un très grand ami, et Mathieu il avait une grande admiration pour le poète et pour le peintre, ça, ce qui est assez rare chez lui. Vols et Michaud comptent énormément, mais il y a Max Ernst aussi, il y a Matta, et Malraux qui vient enthousiasmé dit voilà le premier calligraphe occidental. Et le mot est lancé.
La formule va rester. Elle va lui coller à son œuvre longtemps.
Et ça y est, c'est installé. Ensuite, il va y avoir différentes ouvertures. Chacun va suivre son chemin, va se prendre vraiment en main, si je puis dire. Et donc, il va y avoir des langages propres et spécifiques à chacun. Et Mathieu, lui, est dans cette direction du signe absolu et qui l'engage jusqu'au vertige.
Alors, parmi les abstraits lyriques, parlons un petit peu de ceux de l'Académie des Beaux-Arts. Quelles ont été les relations entre Georges Mathieu, Zewki et Zhu Zhichun ?
Je crois qu'elles sont très bonnes.
Oui,
elles sont très bonnes. Mais sans faire d'indiscrétion pour en parler, on va dire en intimité, bon, oui. Parce que Mathieu m'en a parlé, parce que j'en parle aussi avec Zhu Zhichun, qui a beaucoup d'admiration pour Mathieu, et vice-versa. Donc, en fait, ils sont très proches, ils ont chacun leur langage. Simplement, chez eux, le geste n'a pas la même signification, encore une fois, parce qu'on a compris que ce geste, chez Mathieu, l'engageait pleinement et engageait d'abord une forme de pensée et une façon, une philosophie de la vie.
Pour terminer cet entretien, évidemment, je pense que nos auditeurs se rendront compte qu'on ne peut pas évoquer l'œuvre et la pensée de Mathieu en une heure, c'est impossible. Mais quelle est la pérennité de son œuvre aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on
la pérennité, je pense que l'œuvre est là. L'œuvre est là, elle s'impose, elle est intemporelle. Il ne peint plus depuis une dizaine d'années parce que ça, c'est un choix personnel. Il a fait son œuvre et donc il a présenté il y a quelques années dans une galerie de la rue de Seine, Galerie Protée. Il a présenté des œuvres sur papier, mais c'est pas pour lui ce qu'il considère comme étant une œuvre à part entière, comme ces grandes, grandes toiles. À propos des formats, ce qu'il rapproche de Zewki et de Zhu Zhichun, oui. Donc ça serait, en dehors de ce geste que chacun vit personnellement, il y a ce choix justement du format, des grands formats, parce qu'il y a encore une fois cette confrontation à l'espace. Alors, chez les Chinois, ça passe effectivement plus par une culture taoïste et parce que on est face à la nature, on s'en imprègne et on s'immerge dans cette nature. Mais avec ce phénomène de contemplatif qui nourrit le geste, qui va être extrêmement mûri, encore une fois, et très pensé. Chez Mathieu, c'est une immersion complètement différente, c'est l'immersion dans le vide. Et donc, ce n'est pas l'immersion dans un paysage donné, dans une chose préexistante, dans une nature qui est là et qui a ses propres lois, puisqu'il a ses propres lois, Mathieu.
Parmi ces dernières toiles, laquelle pourriez-vous évoquer devant nous, Lydia Hambourg ?
Eh bien, c'est une toile qui est une toile dictée par un drame vécu par les Coréens qui sont morts dans cet avion qui avait été abattu par l'aviation soviétique. Donc, c'est le massacre des 269 Coréens par l'aviation soviétique. C'est une toile donc peinte en 1991 et ce qui est intéressant peut-être de faire, mais sans qu'on y voie un quelconque rapprochement, une quelconque comparaison interprétative, c'est une réflexion que je pose comme ça, c'est que Mathieu l'a appris bien sûr par le journal, par les actualités parlées ou écrites. Et c'est aussi de cette façon que Picasso peint son Guernica aussi en 37. Et ce scandale, ce qui ne peut pas avoir de nom, cette ignominie justement de la nature humaine face à cette horreur, à cette monstruosité, Picasso dans l'urgence peint son Guernica. Et le dernier tableau, vraiment un dernier important tableau qu'on peut vraiment appeler tableau de Georges Mathieu. C'est un tableau, justement, qui ne met en scène rien du tout, puisque là, ça passe par la pulsion, par donc le geste, encore une fois, le signe, qui est porteur de tout. Et c'est à la suite de cette prise de conscience d'un drame qui perdure et qui continue à déchirer et à anéantir l'humanité.
Lydia Hambourg, merci beaucoup d'être venue nous parler de Georges Mathieu, de sa peinture, de son œuvre, de sa pensée. On aura compris combien elle était cohérente, forte et complexe. Merci beaucoup d'être venue.
Merci.